Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur l'efficacité des casques bleus déployés dans l'Est de la République démocratique du Congo. À quoi sert la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC? C'est la question que se posent les habitants de Beni, de Butembo, de Goma, qui font entendre leur colère ces derniers jours. Leur colère face à la multiplication des attaques attribuées aux miliciens de l'ADF. Protégez-nous ou quittez le pays. Voilà ce que scandent la population dans l'est de la RDC, les casques bleus, critiqués donc pour leur incapacité à protéger les civils. Alors comprenez-vous cette défiance à l'égard de la MONUSCO? Comment peut-on améliorer l'action de ce qui est finalement la plus importante mission des Nations Unies déployée dans le monde? On en parle sur l'antenne de RFI. Vous continuez évidemment à nous appeler, des dizaines et des dizaines de commentaires sur WhatsApp, plusieurs centaines également sur la page Facebook. Nous vous donnons la parole, 33 9 693 693 70. Mais d'abord, votre rendez-vous interactif avec la rédaction de RFI, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et on va revenir sur les élections de dimanche dernier à Hong Kong. Bonjour Dioulde.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur l'antenne de RFI. Vous nous appelez de Conakry, en Guinée.
Oui, bien sûr.
On vous écoute.
Des élections locales se sont tenues ce week-end à Hong Kong, remporté largement par le mouvement pro-démocratie. Quelle pourrait être la conséquence de cette victoire dans la relation entre Pékin et Hong Kong? Ce résultat pourrait-il engendrer un changement à la tête de l'exécutif hongkongais?
Bonne question que vous posez, Dioulde. En tout cas, jamais une élection locale à Hong Kong n'avait suscité autant d'intérêt. On voit le record de participation. Près de 3 millions d'électeurs se sont déplacés aux urnes. 3 millions sur 4 millions d'inscrits. C'est dire l'engouement au sein de l'électorat hongkongais. Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour Juan, bonjour Dioulde.
Correspondant permanent de RFI à Pékin, vous étiez à Hong Kong ces deux dernières semaines. On voit cette participation record et on voit surtout la victoire écrasante des candidats pro-démocratie, ce qui confirme d'une certaine façon le soutien de la population à la contestation. Quelles conséquences maintenant sur les relations entre la Chine continentale et Hong Kong?
Alors les conséquences, il y en aura forcément, même si on les voit pas. Hein. C'est sûr que ça va vous décevoir un peu, Dioulde, mais en Chine, on aime laver son linge sale en famille, en tout cas dans le régime chinois. On n'affiche pas forcément ses désaccords, et c'est le principe d'unité, en tout cas d'harmonie, qui est vanté par la propagande qui est affichée. Mais derrière, on imagine mal que ça dure comme ça, en tout cas. Effectivement, il y a probablement une très grande déception de la part du régime chinois par rapport à l'exécutif hongkongais, et que peut-être que les couteaux sont déjà tirés et qu'on essaye à tirer les conséquences de ce qui s'est passé. C'est vraiment un camouflet, en tout cas, une humiliation. On en parle tellement, on n'en parle même pas. Ici, je suis revenu, les journaux chinois n'en parlent pas du tout. On dit qu'il y a eu des élections, mais on ne donne pas le résultat.
Ah oui.
Tellement, encore une fois, il s'agit d'une humiliation pour le pouvoir chinois. Même si le pouvoir chinois anticipait, Juan, certainement une remontée du score de l'opposition, difficile d'anticiper ce tsunami, ce basculement politique, en tout cas. Aux dernières élections de district, il faut rappeler quand même, il y a 4 ans, les candidats pro-gouvernement avaient raflé près de 70% des voix. Et là, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Un vrai basculement des votes, encore une fois, un raz-de-marée électoral pour le camp pro-démocrate. Alors, il y a des signes, Dioulde. On voit que ça tire quand même chez les vaincus. D'abord, dans les discours, il n'y avait plus que de l'embarras. Lundi, moi, quand on a entendu Carrie Lam, donc la chef de l'exécutif, ou quand on a entendu aussi le ministre chinois des Affaires étrangères qui était en déplacement au Japon, ils n'ont pas dit grand-chose. On les sentait gênés, très embarrassés par ce qui s'est passé. Et puis, on a senti aussi chez les candidats pro-Pékin, dans les districts, on s'est rendu notamment tout près, dans la presqu'île de Kowloon, dans les nouveaux territoires, ce qu'on appelle les nouveaux territoires de Hong Kong, donc à la frontière, en tout cas la ligne qui sépare la Chine continentale de Hong Kong, et dans ces districts où les candidats pro-Pékin, pro-gouvernement, avaient gagné largement la dernière fois, là aussi, certains ont été défaits par ces élections, et on sent qu'il y a un désaveu, en tout cas, pour l'équipe gouvernementale, une déception à mots couverts. Certains ne cachent plus leurs critiques, en tout cas, et se demandent bien quelle mouche a pu piquer, finalement, cette équipe dirigeante hongkongaise. hongkongaise en lançant, on le rappelle, un projet de loi sur l'extradition. Hein, ça, c'était au printemps dernier, un projet de loi qui a finalement réveillé les braises de la contestation, la colère. Et c'était il y a 5 mois, hein, Duel Day. Et aujourd'hui, donc, on est arrivé à ce séisme politique. Donc, on sent quand même, au sein de ces candidats pro-Pékin, pour certains, on ne le dit pas, mais on reconnaît qu'il y a une défaite et on se dit, mince, qu'est-ce qui s'est passé, quoi.
Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, il faut quand même rappeler que le pouvoir des conseillers qui ont été élus dimanche se limite à leur quartier. Hein. Ils sont chargés de la collecte des ordures, des transports, des infrastructures. Ils n'ont pas un véritable pouvoir sur les relations entre Pékin et Hong Kong.
Oui, alors quand même, ils élisent quand même 117 des membres qui vont du comité électoral du prochain chef de l'exécutif. Les élections, ça sera en septembre 2020. Donc, ils ont quand même aussi un rôle un peu plus large que ça. Et puis surtout, là encore une fois, c'est considéré en tout cas par l'opposition et même d'une certaine manière par les pro-gouvernements comme un référendum. Tout le monde ici, quel que soit son camp, hein, pro-démocrate ou gouvernement, on avait dit que ça serait un référendum. En gros, en référendum pour les pro-gouvernements, ça serait un référendum contre les protestataires et contre les violences. Et puis du côté des pro-démocrates, ça serait un référendum, au contraire, pour défendre les revendications de la rue qui, depuis 5 mois, se manifestent, parfois avec violence, souvent avec violence d'ailleurs, dans les rues. 5 revendications, notamment une enquête indépendante sur les violences policières ou encore la demande du suffrage universel. On imagine aujourd'hui, Juan, qu'avec, encore une fois, ce camouflet électoral, eh bien, on n'est pas prêt, en tout cas du côté de Pékin, d'accorder ce suffrage universel. Encore une réponse quand même à Duel Day. On vient d'assister à un désaveu quand même là, qui est presque clair. Le gouvernement chinois a installé ce qu'on appelle un centre de décision près de Shenzhen, donc à côté, de l'autre côté de la péninsule, côté continent, pour s'occuper des affaires de Hong Kong. Jusqu'à présent, c'était le bureau de liaison des affaires avec Macao et Hong Kong qui s'en occupait. Visiblement, donc à Pékin, on a trouvé que ce bureau de liaison avait mal anticipé, hein, à tout le moins, cette élection, et en tout cas avait mal géré cette crise. Et donc, on pourrait avoir demain des têtes qui tombent, ou en tout cas des changements à la tête de ce bureau de liaison, puisque pour l'instant, on a mis une cellule de crise, entre guillemets, suite à ces élections de Hong Kong, dans une villa côté continent.
À suivre donc l'analyse et l'expertise de Stéphane Lagarde, correspondant de RFI à Pékin. Duel Day, on vous souhaite une bonne journée à Conakry. Merci de votre fidélité. On repasse au standard, au 33 9 693 693 70. Bonjour Marius Trésor.
Bonjour Monsieur Juan Gomez, j'ai dit bonjour de passage à Monsieur Arnaud Pontus.
Très bien, Arnaud Pontus qui présente la matinale de RFI et qu'on salue bien évidemment, il est encore dans les couloirs, je le vois d'ici. Vous avez des questions sur l'hymne national du Niger?
Oui, c'est cela.
Allez-y, on vous écoute.
Ok, le Niger a décidé de changer certaines paroles dans l'hymne national actuel du pays, car plusieurs passages sont polémiques. Alors, je voudrais savoir quelles sont les paroles qui seront modifiées et qui sera en charge de la rédaction de ces nouvelles paroles.
Oui, c'est le ministre de la Renaissance culturelle qui l'a annoncé à la télévision nationale. L'hymne nigérien sera prochainement changé. Nous avons donc contacté le ministre en personne. Bonjour Assoumana Malamissa.
Bonjour Monsieur Christophe.
Merci d'être avec nous, ministre de la Renaissance nationale du Niger. La Nigérienne, faut quand même le rappeler, a été écrite par un Français en 1961, soit un an après l'indépendance du pays. Vous estimez maintenant qu'il est temps de changer certaines paroles?
Merci beaucoup Monsieur Christophe. En fait, il ne s'agit pas de changer certaines paroles. Il s'agit d'un projet qui a deux objectifs. D'abord, d'examiner, de faire une sorte d'analyse critique de l'hymne actuel et de voir si c'est simplement certaines paroles qui doivent être changées. Et ensuite, éventuellement, le comité qui est mis en place pourrait se charger de proposer un autre hymne. En fait, il faut rappeler pour que l'on comprenne le contexte. Déjà en 1989, sous la Deuxième République, il y avait une première tentative de changement de l'hymne. Un concours avait été lancé, et même une œuvre qui a été retenue, mais qui n'avait malheureusement pas été adoptée comme hymne du pays. Mmh. Et ensuite, à la conférence nationale, des voix se sont élevées pour demander le changement ou la modification, la correction de l'hymne, par rapport à certains vers, par rapport à certains passages. Et nous, lorsqu'on est arrivé, et c'est ça la raison principale, en 2016, le président de la République avait pris l'option de faire la renaissance culturelle. C'est toute une dynamique, c'est toute une vision à travers laquelle on a pris le temps d'élaborer un programme. Et dans ce programme, on n'a pas été complaisant, même vis-à-vis de nous-mêmes. On a fait un diagnostic objectif pour dire voilà ce qui ne marche pas dans notre pays, oui. Voilà des attitudes qu'il faut combattre,
mais monsieur,
voilà des valeurs qu'il faut promouvoir.
Monsieur le ministre, pour revenir à l'hymne national, qu'est-ce qui ne va pas exactement? Quelles sont peut-être les paroles qu'il va falloir modifier, des paroles qui, dit-on, font trop allusion à la colonisation?
Je vous explique, non, ça, écoutez, ça c'est la diversion. Quand les gens pensent que c'est parce que c'est un hymne qui est écrit par un Français ou bien parce qu'on sortait de la colonisation, c'est vrai que ce n'est pas totalement faux parce qu'on parle de liberté nouvelle. Et ça fait 60 ans que nous sommes indépendants, donc de quelle liberté nouvelle on peut parler? Mais ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est que nous avons un nouveau programme qui prend toute une vision et il faut que l'hymne soit collé à ce programme-là pour faire la promotion d'un certain nombre de valeurs qui sont retenues, pour faire le plaidoyer et combattre un certain nombre de comportements et de dérives qui sont en train de s'observer dans notre pays. Et mieux, ce que nous avons dit aujourd'hui, c'est un appel à contribution citoyenne, même internationale. C'est-à-dire, on est en train de recueillir des propositions d'hymne, des propositions de modification. Et si un Français, un Allemand, un Togolais, un Béninois qui aime le Niger, qui a les mots qu'il faut, peut proposer quelque chose qui nous convienne et qui cadre avec notre programme, on va l'adopter. Ce n'est pas une question de l'auteur ou une question de colonisation.
Donc, ça veut dire
c'est une question d'option du pays.
Chacun peut faire des propositions. Il y a des consultations citoyennes qui sont organisées à travers le pays. Notre auditeur d'Abidjan, qui est toujours en ligne et qui vous écoute attentivement, monsieur le ministre, nous demandait concrètement qui sera en charge de la rédaction du nouvel hymne national du Niger. Il y a déjà une équipe qui est un comité qui a été créé.
Alors, c'est un comité des experts qui se charge de recueillir les propositions des citoyens, de les traiter et au finish de proposer un ou deux ou trois textes qui peuvent être soumis à appréciation au niveau du pays. Mais avant cela, il y a un comité de rédaction qui est composé des ministères essentiels qui sont concernés par les questions de crime, tels que le ministère dont j'ai la responsabilité, le ministère de la Justice, le ministère de la Défense, le ministère de la Primature et le ministère directeur du cabinet du président de la République. Mmh. Ça, c'est le comité d'orientation auquel d'abord le comité soumet le travail et puis de l'autre côté, le comité va, comme je l'ai dit, lancer un appel à contribution citoyenne. Il va sillonner le pays pour recueillir et expliquer le contour du projet, recueillir les avis des citoyens.
D'accord.
Et des communiqués vont être faits à travers les médias pour recueillir l'ensemble des contributions de citoyens du monde. Ce n'est pas simplement des Nigériens. Si vous l'avez dit aujourd'hui, Martyr.
On a bien compris que chacun peut apporter sa contribution. Monsieur le ministre, à quand le nouvel hymne national? L'année prochaine, votre pays, comme de nombreux pays africains, vont célébrer le 60e anniversaire de leur indépendance. Est-ce que ce sera finalement la bonne occasion de présenter aux Nigériens le nouvel hymne?
J'assure le lien entre le comité d'orientation et le comité des experts. Hier, ils ont fait leur première réunion. Ils m'ont soumis un draft de chronogramme qui inclut non seulement l'appel à candidature, à contribution, qui inclut les réunions à l'intérieur du pays, les concertations nationales après la sélection de un ou deux ou trois textes, et cela peut nous amener au mois de mars 2020.
Ah,
mais
mars 2020. La date anniversaire, c'est août 2020. Donc, on peut espérer le nouvel hymne pour le 60e anniversaire de l'indépendance.
Exactement. On peut espérer que pour le 60e anniversaire de l'indépendance, que le nouvel hymne soit adopté et que les citoyens puissent se l'approprier.
Oui.
Et pour notre bien, pour le bien du Niger.
Marius Trésor, à Abidjan, le ministre a-t-il répondu à votre question?
Oui, merci, monsieur le ministre. Tout est clair. Merci beaucoup.
Merci, monsieur Wang. Merci à vous de nous écouter à Abidjan et merci à Soumana, madame Issa, ministre de la Renaissance culturelle nationale du Niger. Bonne journée à tous les deux. Le temps passe très vite. Il nous reste à peine 6 minutes. Le temps, à mon avis, de prendre la dernière question ce matin. On en avait prévu bien d'autres, mais voilà, c'est comme ça. On est en direct. Mossadou, bonjour.
Oui, bonjour, Juan, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la RFI.
Des questions sur les élections législatives anticipées du 12 décembre au Royaume-Uni.
Oui, effectivement, Juan, le long épisode du Brexit continue de battre le pavé dans la mare au Royaume-Uni. Fait illustratif, le premier débat qui a opposé Jeremy Corbyn et Boris Johnson la semaine dernière. Et donc, si j'aimerais savoir comment expliquer que Jeremy Corbyn n'annonce toujours pas s'il va faire campagne,
pour continuer, pour rester ou pour sortir de la ligne européenne si un nouveau référendum est organisé.
Ouais, c'est vrai qu'on ne sait toujours pas si le leader travailliste fera campagne pour quitter l'Union européenne ou pour y rester. Pourtant, la question lui a plusieurs fois été posée, notamment lors de ce premier débat télévisé dont vous parliez, débat qui a eu lieu effectivement la semaine dernière. Bonjour Catherine Mathieu.
Bonjour.
Spécialiste du Royaume-Uni, économiste à l'OFCE, comment expliquer qu'à 2 semaines d'une élection qui s'annonce tout de même décisive, Jeremy Corbyn ne dit pas si en cas de référendum, de nouveau référendum évidemment, il ferait campagne pour ou contre le Brexit ?
Eh bien, en fait, Jeremy Corbyn a toujours été très réticent par rapport à l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, d'une part. Et puis, d'autre part, depuis le référendum de juin 2016, il a gardé une ligne constante. La première ligne, c'est, enfin, deux lignes constantes. La première ligne, c'est qu'il y a eu un vote et il faut respecter ce vote. Donc, les Britanniques ont voté en majorité pour sortir. Il faut respecter ce vote des Britanniques. Et la deuxième ligne, c'est d'écouter ce qui se dit à l'intérieur du parti travailliste, qui est très divisé sur cette question. Et chez les travaillistes, il y a une partie des représentants qui sont pour qu'il y ait un nouveau référendum et d'autres qui sont pour que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. Donc, en fait, ce qu'a trouvé comme stratégie Jeremy Corbyn, c'était de dire au parti travailliste, et c'est ce qui est annoncé dans le programme de la campagne des travaillistes pour ces législatives anticipées, que si les travaillistes arrivent en tête, donc s'ils forment un gouvernement au Royaume-Uni, ils commenceront par renégocier un meilleur accord avec l'Union européenne, un meilleur accord que celui obtenu par Theresa May, un meilleur accord que celui obtenu par Boris Johnson, et qu'ensuite cet accord sera proposé au vote des Britanniques avec 2 questions. La première question britannique, êtes-vous pour cet accord ? Et donc, dans ce cas-là, les Britanniques sortent de l'Union européenne avec cet accord. Ou êtes-vous contre cet accord ? Et dans ce cas-là, les Britanniques restent dans l'Union européenne. Donc, en fait, la façon, effectivement, de Jeremy Corbyn de gérer toutes ces divisions à l'intérieur du Parti travailliste sur la question du Brexit, c'est de répondre en disant il y aura un vote sur un nouvel accord ou rester dans l'Union européenne, sachant qu'effectivement, Jeremy Corbyn continue de dire qu'il restera neutre, ce qui est effectivement très étonnant.
C'est étonnant parce que le Brexit, c'est tout de même la question de cette élection du 12 décembre.
Oui, tout à fait. Alors, oui, c'est la question de, c'est pour cela que cette élection a lieu de façon anticipée. Là encore, dans son programme, dans le programme des travaillistes, il y a plus de 100 pages. Hein, dans le programme, il y a à peu près 5 pages qui sont consacrées à la, seulement, 5 pages seulement qui sont consacrées à la question du Brexit. Et en fait, Jeremy Corbyn a axé la campagne des travaillistes, non pas sur cette question du Brexit, mais sur toutes les questions sociales et sur la montée des dépenses publiques que le gouvernement travailliste ferait si un gouvernement travailliste arrive au pouvoir après les élections de décembre. Et donc, en fait, la stratégie travailliste est davantage de se poser sur les questions sociétale, de politique économique etc. au Royaume-Uni et sociétale, plutôt que sur la question du Brexit.
Catherine Mathieu, Mossadou a une dernière question à vous poser. Mossadou.
Oui, effectivement, Boris Johnson est favori dans les sondages. Jeremy Corbyn a-t-il des chances pour rattraper son retard ?
Ah, il est loin derrière, hein, Jeremy Corbyn. Boris Johnson est en tête avec 42% des intentions de vote. Jeremy Corbyn, il est à 29%.
Oui, c'est vrai. Alors bon, depuis le début de la campagne, on a vu tout de même à la fois une montée de Boris Johnson dans les sondages et une montée parallèle de Jeremy Corbyn dans les sondages, mais effectivement avec toujours un écart de l'ordre de 10 points selon les derniers sondages. Ce sera très difficile, selon moi, pour Jeremy Corbyn de rattraper le retard. Je pense que le programme des travaillistes aujourd'hui, qui est positionné très à gauche, ne parviendra pas. Enfin, c'est un risque hein, pour les travaillistes qu'ils ne parviennent pas à rassembler une majorité de Britanniques derrière lui. Et vu le type de scrutin qui a lieu au Royaume-Uni, où c'est un scrutin uninominal à un tour, il faut que les électeurs se positionnent dès le premier tour sur le candidat qu'ils préfèrent. Et aujourd'hui, on voit, comme en 2017, qu'une majorité de Britanniques reste plutôt favorable à un gouvernement conservateur. Et Boris Johnson a lui aussi mis dans son programme un certain nombre d'éléments de remise à niveau des dépenses de services de santé, notamment, et donc, en fait, à essayer un petit peu d'avoir un programme un peu moins conservateur, un peu moins austère,
on va suivre.
Qu'il y a une dizaine d'années.
On va suivre la campagne, évidemment, on la suit déjà avec nos correspondants sur place. Merci infiniment, Catherine Mathieu, bonne journée, spécialiste du Royaume-Uni, et Saliou, c'était Mossadou, rappelez-nous, quand vous le souhaitez, bien évidemment. Xavier Bessin.